Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous écoutez Écoforum, une émission qui vous propose de rencontrer Sébastien Barle ce soir, adjoint à la transition écologique à la mairie de Marseille. Vous pouvez participer à l'émission et nous poser vos questions à l'antenne au 04 91 08 28 15. Et vous pouvez également réécouter l'enregistrement donc, de cette émission en rediffusion demain, jeudi 17 septembre, de 9h à 10h. Bonsoir, monsieur Barle.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
Je m'excuse.
Oui.
Le numéro, c'est pas. Tu as dit à l'antenne. Tu t'es trompé. C'est le 04 91 08 28 10.
Très bien. Bah, j'avais pas le bon. Voilà. Donc, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Donc, monsieur Barle, vous êtes actuellement en poste d'adjoint à la transition écologique à Marseille. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours et sur ce qui vous a mené à vous engager dans cette voie ?
Bien, écoutez, moi, en fait, je suis militant écologiste depuis au moins 20 ans, même si avant je l'étais, mais en fait, je suis militant en quartier depuis plus de 20 ans maintenant. Avant, ben, je suis originaire de la région, bien évidemment. Je suis varois d'origine, j'ai vécu à Nice. J'ai été étudiant à Marseille. Je suis parti après pour faire ma thèse et j'y suis revenu en 2004. Et en fait, ben, l'écologie, c'est pour moi, en fait, c'est le projet en fait, de société du 21e siècle. Je pense que c'est aujourd'hui un nouvel horizon. Il y a eu... C'est un nouveau projet de civilisation, si vous voulez. Donc voilà, j'ai épousé ce projet il y a une vingtaine d'années. Et le chemin est long, parce qu'on sait bien que la transition va être compliquée. C'est toujours très compliqué de s'adapter au changement. Mais aujourd'hui, ben, en fait, il y a un impératif. On nous impose, le changement nous a imposé. En fait, c'est une question d'avenir de l'humanité. Parce qu'on voit bien que le péril climatique, en fait, menace l'existence même de l'humanité. C'est pas la Terre qui est menacée, c'est vraiment la place de l'homme qui est menacée. Et puis, ben, ce sont tous les fondements de notre civilisation, c'est-à-dire la paix, les solidarités, les systèmes de solidarité qu'on a pu mettre en place ce dernier siècle notamment. Voilà, c'est ça qu'il faut préserver en luttant contre le bouleversement climatique.
Très bien. Et du coup, donc vous avez Marseille donc comme objectif, au moins territorial. Donc Marseille, du coup, qui est une ville polluée et polluante, à la fois par rapport à l'activité portuaire, du coup, qui rejette notamment beaucoup d'hydrocarbures en mer, mais aussi des particules fines de dioxyde d'azote, de soufre, une activité également industrielle polluante dans les environs de Marseille, et une activité touristique qui se fait de plus en plus intense, notamment du fait de la fermeture des frontières pendant la crise du Covid, qui entraîne malheureusement une surfréquentation, une pollution des eaux de surface et aussi le piétinement de l'environnement, beaucoup plus de déchets. Est-ce qu'on peut vraiment faire de Marseille une ville écologique ? Par où on commence, du coup, quand on veut essayer de changer les choses à Marseille ?
Vous avez raison. Marseille, c'est une ville qui part d'extrêmement loin. C'est une ville extrêmement polluée. On a trois sources de pollution. On a cette politique du tout-voiture. On est une ville où, malheureusement, on hérite de cela. On n'a pas pensé les transports collectifs sur tout le territoire marseillais. C'est-à-dire, il y a des quartiers qui sont... qui ne sont pas desservis. Il y a une espèce de ségrégation par l'absence d'offres de transport. Je pense au quartier Nord, à une partie des quartiers Est, et même dans le centre, dans le 7e arrondissement, il manque des transports collectifs. Donc il y a ce grand problème qui fait que beaucoup de Marseillais sont contraints de prendre leur voiture. Et par ailleurs, bah, il faut développer les mobilités douces, c'est-à-dire des alternatives à la voiture, les transports collectifs, mais également bah, le vélo, le fait de faire des itinéraires cyclables. Alors nous, bah, c'est... ayant une feuille blanche partant de zéro en fait en matière d'écologie à Marseille, on est en train de penser tout cela à la fois, la réduction de la place de la voiture, la question du développement du plan vélo, parce qu'en fait il y a un plan vélo avec 8 itinéraires cyclables à Marseille, et donc ça bah, on essaye de le mettre en place, ça va prendre un peu de temps, mais on va le mettre en place, on va commencer par des premiers itinéraires, et puis jusqu'à la fin de la mandature on essaiera de faire en sorte que ces grands axes cyclables soient développés. On souhaite bien évidemment, pour lutter contre la pollution, bah, développer des zones à trafic limité, par exemple. C'est-à-dire éviter la circulation de transit dans les endroits notamment où il y a des transports collectifs. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse mettre des zones où ne peuvent rentrer que les gens qui sont résidents de cette zone. et les véhicules d'urgence, bien évidemment, les livraisons, les personnes handicapées, mais en limitant énormément le trafic du transit, parce que la moitié du trafic à Marseille, c'est le trafic du transit. Donc voilà, il faut développer les transports collectifs, ça c'est sur le long terme, et il faut entre-temps peut-être sanctuariser des zones pour limiter la place de la voiture et limiter de fait la pollution, qui a des dégâts assez colossaux à Marseille. La pollution dont vous avez parlé, c'est-à-dire les trois sources de pollution dont on est victime, le transport automobile, la pollution liée aux navires, et notamment aux bateaux de croisière, qui sont une forme de tourisme à laquelle il faudra réfléchir, peut-être faudra-t-il penser à une autre forme de tourisme à Marseille que ces monstres des mers qui viennent dans notre port, qui restent à quai, qui continuent à avoir pour seule retombée que des pluies de particules fines pour les riverains, pour les habitants des quartiers nord notamment. Donc voilà, ça c'est plutôt négatif comme retombée. Il faut mesurer l'ensemble des impacts de ce type de tourisme et peut-être penser à un tourisme plus soutenable, un écotourisme. D'ailleurs, la maire de Marseille souhaite organiser prochainement, en fait, elle souhaite inviter l'ensemble des maires du bassin méditerranéen, des maires M-A-I-R-E, femmes et hommes, maires de Naples, maires de Barcelone, qui ont déjà pris des mesures courageuses, qui souhaitent limiter justement l'impact de la pollution liée au trafic maritime. Elle souhaite inviter tous ces maires, mais y compris des maires du bassin de l'autre rive de la Méditerranée, de la rive sud, pour échanger sur cette Méditerranée qui ne doit pas être la poubelle en fait à pollution en fait pour l'ensemble des mers. On sait que sur d'autres mers, la mer Baltique, la mer du Nord, on a limité la pollution au fioul lourd des navires justement. Et donc, il faut développer, il faut réglementer, il faut que l'OMI, malheureusement, ce n'est pas nous, mais il faut qu'il y ait une pression citoyenne et une pression des autorités locales, donc des maires. Et Mme Rubirola, c'est son souhait d'organiser cette conférence et de faire en sorte que notre mer ne soit plus une mer poubelle. Et puis, il y a également la question qui se pose pour notre bassin méditerranéen, la question des migrations, qui est une vraie question. On ne peut pas faire en sorte que notre mer soit également un cimetière marin, en fait, avec des personnes qui meurent en Méditerranée, qui ne sont pas accueillies. Il faut qu'on devienne des villes d'accueil. On a toujours été une mer d'échange, de flux de personnes notamment. Ben, il faut que Marseille redevienne une ville hospitalière comme les autres villes du bassin méditerranéen.
Très bien. Donc la migration, la pollution et le développement de la mobilité, donc c'est trois thèmes dont vous nous avez parlé. Ça fait partie du coup des dossiers que vous avez choisi de prioriser suite à la prise de vos fonctions, ou il y a également d'autres dossiers
Non, bah alors, en fait, on est il y a 28 adjoints aujourd'hui et adjointes autour de notre maire. Et moi, je suis délégué donc à la transition écologique et à l'Assemblée du futur. Alors l'Assemblée du futur, pour commencer par là, c'est, on se dit en fait que notre ville, en fait, il y a deux objectifs. Il faut réparer notre ville. On le sait, il y a des urgences vraiment essentielles, des urgences sociales notamment. Donc la question des écoles. On ne peut plus avoir des écoles qui soient dans un état complètement déplorable, avec des cours dégradés, avec des murs qui s'effondrent, avec des rats, des punaises de lit. Enfin, c'est plus possible de tolérer cela dans une école de la République. Et donc Marseille doit mener un plan, entamer un plan de rénovation de ses écoles. Et puis il y a la question en fait de l'autre urgence, qui est une urgence absolue également, c'est la question du logement, bien évidemment. Donc il faut répondre à ces deux urgences, réparer notre ville, éviter que d'autres immeubles ne s'effondrent, mais il faut également préparer la ville à être une ville résiliente, à être une ville sobre, fraternelle. Et donc, ça, c'est ça, la transition écologique. C'est préparer. En fait, il y a plusieurs transitions. Il y a la transition écologique dont on parle, qui est générique, mais c'est aussi une transition démocratique. Il faut que les gens, en fait, se disent que comment vivre ensemble demain. Enfin, voilà, comment préparer cette ville où on peut sortir d'une ville fracturée, d'une ville avec des inégalités colossales. On sait qu'à Marseille, en fait, il y a un rapport de 1 à 15 selon les quartiers, en fait, par rapport au revenu médian. Donc ça, ce n'est plus tolérable. Il faut travailler sur les politiques d'égalité. Et donc le Collège du Futur, c'est l'Assemblée du Futur, pardon, c'est une assemblée en fait citoyenne, avec des citoyens tirés au sort qui représenteront en fait l'ensemble de la ville et qui vont se projeter en fait dans la ville de demain. Quelle est la ville dont ils rêvent? Mais c'est une assemblée qui réellement va poser les jalons de la ville de demain en matière d'urbanisme, en matière de circuits alimentaires. Par exemple, est-ce que nos gamins doivent continuer à manger de la malbouffe de Sodexo ? Est-ce qu'on doit plutôt développer, en s'appuyant sur l'existant et en développant les filières agricoles ? Il faut peut-être soutenir des agriculteurs et soutenir l'agriculture paysanne locale pour alimenter justement et permettre à nos enfants de se nourrir en production locale, bio si possible, et non pas avec de la bouffe industrielle servie dans des barquettes en plastique qui dégagent des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est un des enjeux, en fait. C'est ça, penser la ville de demain, c'est anticiper la fin de ce marché Sodexo et prévoir des plans, en fait. C'est des grands plans de planification, mais c'est penser aussi à un urbanisme qui soit... qui mixe en fait tous les usages, qui pense d'abord la ville pour ses habitants, pour ses habitantes, et non pas une ville qui soit pensée pour une mise en concurrence par rapport à d'autres territoires, parce qu'en fait c'est pas au service des habitants. Donc quelles activités on a besoin, de quels besoins on doit se doter, quels sont les équipements collectifs. On a développé pendant la campagne avec le Printemps Marseillais et Debout Marseille la question de la ville du quart d'heure. Il faut que tous les Marseillais puissent disposer à proximité de chez eux de tous les équipements collectifs, de l'accès à la culture, l'accès à des espaces verts, l'accès à des bibliothèques, on manque de bibliothèques à Marseille, l'accès à des piscines, donc à des équipements sportifs également. On sait que tout ça, ça manque. Et donc c'est ça, en fait, équilibrer cette ville. Et on a besoin, en fait, parce que nous, on est des élus, on a la tête dans le guidon, on va soutenir des projets, on va développer plein d'idées, mais il faut que tout ça soit pensé par, si possible, des citoyens qui prennent de la hauteur et qui se projettent, qui soient formés sur les grands enjeux de demain. L'impératif climatique, bien évidemment, la question de l'impératif sanitaire, la question de la relocalisation de l'économie, parce qu'il faut décarboner l'économie aussi, la question de la reconversion industrielle. Toutes ces questions, elles doivent être pensées, en fait, dans cette assemblée du futur. Ça, c'est le premier chantier. Ensuite, dans mes prérogatives, moi, ce que j'ai dégagé depuis deux mois, en fait, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs. J'ai mis autour de la table également beaucoup d'acteurs locaux, des entreprises, des associations, qui... ont des projets, en fait, autour de la transition écologique. Donc, tout ce petit monde, en fait, on coélabore ensemble cette feuille de route, la feuille de route dont je vais vous parler. Et, par exemple, un des chantiers premiers dont il faut qu'on parle, c'est notre patrimoine, le patrimoine de la ville. C'est notre bien commun, c'est le commun des Marseillais. Ce sont nos écoles, nos gymnases, nos piscines. Elles sont dans un état dégradé. Il faut les rénover, mais il faut aussi les adapter au changement climatique. Il faut que les cours d'école... où les enfants crèvent de chaud l'été parce que le soleil est au zénith et qu'elles ne sont pas végétalisées, ces cours, et il faut les végétaliser. Il faut que, et ça, on a commencé. On répond à un appel à projet, on lance, il va y avoir quelques écoles dont les cours vont être désimperméabilisés. Ça va faire des îlots de fraîcheur et les enfants seront beaucoup plus confortables pour que les enfants puissent jouer l'été notamment. On va également adapter, sur la rénovation des écoles, on va adapter ces écoles au changement climatique en les isolant. Parce qu'en fait, c'est les écoles où souvent il fait très froid l'hiver et très très chaud l'été, dans les classes notamment des derniers niveaux. Donc on va isoler ces écoles, on va produire de l'électricité également. Ces écoles vont être en... On va dire qu'on va être autosuffisant sur notre patrimoine municipal. On peut, d'ici la fin de la mandature, être autosuffisant en matière énergétique, par exemple. Voilà. Et au niveau alimentaire, ça mettra un peu plus de temps, mais c'est un objectif aussi.
D'accord. Et du coup, pour la réduction des dépenses énergétiques des écoles et peut-être vers une transition écologique, vous comptez utiliser, par exemple, les installations de panneaux solaires ?
Oui, ça. Alors, il y a quelques écoles qui ont déjà des panneaux photovoltaïques, mais l'idée, c'est de développer, effectivement, c'est d'abord d'isoler les écoles, parce qu'en fait, il faut de réduire les usages. Il y a des écoles qui sont chauffées en période de vacances scolaires. C'est complètement idiot. Il ne fait pas si froid ici. On peut arrêter de chauffer ces écoles. En période scolaire, ça ne gèle pas, ça ne va pas faire péter les tuyaux. Donc il faut avoir une approche sobre et des usages sobres au niveau énergétique, au niveau des flux, de l'eau, de l'électricité, bien évidemment, et de l'ensemble des flux. Et il faut... c'est un moyen aussi, en fait, de former les élèves à cette sobriété, en fait, à dépenser moins, à dépenser mieux. Et il y a tout un aspect pédagogique de formation, en fait, que l'on peut faire en faisant un programme d'efficacité énergétique des bâtiments, écoles, piscines, gymnases, et puis après tous les bâtiments publics dont on dispose également. Donc ça, c'est un des chantiers, en fait, qu'on souhaite, l'efficacité énergétique.
Sur combien de temps, du coup, vous allez pouvoir mettre ça en œuvre ?
Peut-être que pour l'ensemble de notre patrimoine, ça va mettre 10 ans.
D'accord.
Mais on commencera par les bâtiments les plus gourmands, en fait, les plus énergivores, pour faire des économies. Et ces économies, ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, en fait, on ne dépense rien. On va rien dépenser. On va moins dépenser pour faire, parce qu'il y aura des panneaux photovoltaïques et donc il y aura de l'autoconsommation en fait. On dépensera moins, on aura une facture énergétique moindre et donc avec cet argent, on pourra faire autre chose. Créer du lien social, on pourra développer des activités ou soutenir de l'activité dans les domaines de la transition écologique et solidaire. Donc ça, c'est essentiel. Ou mettre en place, c'est une des idées que l'on a également, des paniers alimentaires ou des tickets alimentaires qui pourraient être donnés par le CCAS, par exemple, pour que les familles les plus démunies puissent accéder non pas uniquement à la malbouffe, mais également à des produits bio de production locale. Ça nous paraît être une piste aussi parce que, certes, c'est aujourd'hui trop cher, mais il faut que l'ensemble de la population ait droit à cette alimentation. Il y a souvent, d'ailleurs, à Marseille, on sait qu'il y a des sites, des sites agricoles en fait, qui sont près d'endroits où il y a des quartiers populaires. Mmh. Et en fait, c'est bien, ça se passe très bien. Le talus, je pense au talus à Marseille, il travaille, il y a les ateliers avec des gamins qui sont dans la cité Herbel, juste à côté. Donc il faut développer ce type de projet d'agriculture urbaine, également de retour à la terre, de retour à la nature. Il faut que c'est un levier pour apaiser la ville, pour faire en sorte que la jeunesse ait peut-être un lien peut-être avec des anciens, parce que les anciens connaissent, ont un rapport plus naturel à la terre, parce que petit, c'était plus proche d'eux, ils viennent peut-être des zones rurales. Donc voilà, je pense que c'est important de nouer ces liens en développant des projets de végétalisation, d'espaces verts bien sûr, mais également d'agriculture partagée, d'agriculture urbaine.
Ouais, justement, à Nantes, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la municipalité a fait en sorte que dans les parcs, il y ait des potagers que chacun puisse venir cultiver et qui assurait aussi une suffisance alimentaire pour les personnes les plus précaires. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être... Il n'y a pas beaucoup de parcs à Marseille non plus, mais est-ce qu'une telle solution pourrait être transposable à Marseille ?
Oui, on peut l'imaginer, effectivement, pas forcément sur les parcs, mais sur nos zones, on a toute une ceinture verte, nous, autour de Marseille, enfin, dans Marseille et à la lisière de la ville urbanisée, on va dire. Et donc, on pourrait utiliser ces espaces, effectivement, pour faire de la production agricole, pour faire des jardins partagés, pour des quartiers qui sont souvent en périphérie, des quartiers, effectivement, où les gens sont plutôt démunis. Donc, ça peut être une piste, effectivement, à explorer.
Très bien. Et donc, je repars un petit peu sur votre parcours et sur ce qui vous a du coup donné envie de militer. Vous m'aviez dit aussi que vous aviez travaillé au Parlement européen. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de vos anciennes expériences ?
Oui, alors j'ai enseigné beaucoup d'années à l'université.
D'accord.
En droit, j'ai enseigné dans pas mal de facultés à Marseille, à Aix. Et puis à Paris 8 également. Et j'ai travaillé ces dernières années au Parlement européen sur les questions, en fait, pour le groupe écologiste et sur les questions de santé publique et de santé environnement. Et notamment, j'ai suivi la saga du glyphosate. Vous savez, ce pesticide, en fait, qui a été réhomologué, mais de manière un peu bizarroïde, on va dire. Mmh. Et donc, effectivement, c'était une bataille homérique, en fait, où nous, au Parlement européen, on avait réussi à faire voter, en fait, un scénario de sortie du glyphosate. Parce qu'en fait, le glyphosate a été jugé cancérogène par le Centre international contre le cancer. Et au niveau du Parlement européen, l'instance de l'Union européenne qui évaluait en fait les substances chimiques a considéré qu'il ne l'était pas. Mais en fait, on s'était rendu compte que ces experts, ces dix experts, en fait, étaient sous l'influence des lobbies, avaient travaillé pour les lobbies chimiques, et Monsanto notamment, c'est Monsanto Bayer, vous savez maintenant. Et donc c'est une espèce de Léviathan, en fait, Monsanto Bayer, qui a même capturé la science. C'est ça qui est terrible, c'est quand on se rend compte qu'on ne peut plus faire confiance en la science. Pourtant, d'habitude, on s'appuie sur de l'expertise scientifique. On se dit que... Mais c'est pour ça que l'essentiel, c'est de faire en sorte que l'expertise soit indépendante. C'est absolument essentiel. On ne peut pas admettre que des scientifiques aient pu bosser pour des grandes multinationales, parce qu'après, ils sont sous influence, en fait, nécessairement. Et donc, sur le glyphosate, c'est ce qui s'est produit, en fait. Voilà.
Ok, très bien. Et justement, la pression des lobbies, on en entend souvent parler. Vous pensez que c'est une vraie réalité au niveau du Parlement européen ?
Moi, je l'ai éprouvé au niveau du Parlement européen. Et donc, c'est encore plus fort, je pense, à la Commission européenne. Mais au niveau du Parlement européen, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a d'ailleurs à Bruxelles plus de lobbies qu'il n'y a de fonctionnaires européens. donc plus de lobbyistes, pardon, qu'il n'y a de fonctionnaires européens. Et donc, oui, c'est réel et c'est un vrai danger pour la démocratie, en fait, parce que c'est une capture de la démocratie, en fait. Et donc, il y a des parades contre les lobbies, il y a des parades, il y a la transparence, mais c'est une arme relative, si vous voulez, parce qu'en fait, la transparence, dire qu'on s'inscrit sur un registre, ça n'empêche pas les liens de se nouer. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est empêcher. Nous, on avait deux armes. On a créé d'ailleurs un collectif qui s'appelle Vigilob, Agir contre les lobbies. Et au sein de ce collectif, on avait mis en avant deux parades. Le fait de garantir l'expertise indépendante, notamment dans les domaines sanitaires et environnemental. Ça, c'est une piste qui est essentielle. Et puis, il y avait une deuxième piste qui est le fait d'empêcher les portes tournantes. Parce qu'en fait, souvent, on a des politiques qui ont une porosité avec la sphère privée, qui sont en lien en fait avec la sphère privée, qui viennent du privé, par exemple. On a vu, en fait, on avait étudié les ministres de la Santé. En fait, tous, la plupart, je ne dis pas tous, mais 80% avaient travaillé, en fait, venaient souvent de l'industrie pharmaceutique, où ils passaient après être passés au ministère de la Santé. Donc ça, ce n'était plus possible. Il faut mettre, en fait, pour couper ces portes tournantes du public au privé, du privé au public, il faut, en fait, mettre un délai de carence, faire en sorte que pendant X années, pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans, le Canada, c'est 7 ans, et ben en fait, il faut les empêcher de faire cette bascule du public au privé. En fait, on fait un choix. Quand on est expert dans le public, on reste dans le public. On ne peut pas basculer du jour au lendemain quand on fait de la politique. Et ben en fait, on ne peut pas, par son carnet d'adresse après, aller pantoufler dans le privé. En fait, ce n'est pas possible, en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a des liaisons qui sont dangereuses, en fait. Et donc, il faut les prohiber, ces liaisons.
Mais qui sont dangereuses au moins pour l'intérêt général qui passe à la trappe.
C'est l'intérêt général qui est sapé dans ces cas-là et qui, effectivement, c'est vraiment ça. Et c'est souvent notre santé, malheureusement, qui en est la victime.
D'accord. Par rapport à ça, du coup, à l'échelle marseillaise, est-ce que vous estimez qu'il existe également des pressions qui pourraient être comparables à celles des lobbies, mais devenant d'autres acteurs sur Marseille, au niveau de la politique de la ville?
Sur Marseille, on peut considérer que sous les précédentes mandatures, donc sous M. Gaudin, il y avait quand même des rois du béton. Donc les promoteurs étaient un peu... ceux qui dirigeaient la ville, en fait, parce qu'on voyait bien que des projets fleurissaient, des projets d'urbanisation sans beaucoup de cohérence, c'était eux qui avaient fait main basse sur la ville. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne me heurte pas dans ma délégation, je ne me suis pas heurté encore à des lobbies. Je vois des entreprises, mais c'est plutôt des gens qui veulent amener sur la transition des projets de transition écologique. Donc, il peut y avoir des liaisons normales, mais en fait... Ce qui est vraiment dangereux, c'est quand les multinationales ou les industriels veulent influer la loi, la réglementation. Nous, à Marseille, on ne fait pas la loi. On veut changer la ville, on fait des délibérations, certes, mais il n'y a pas d'influence directe. En tout cas, on est soumis à la loi, justement, à la loi nationale.
Et justement, donc vous parliez du fait que les promoteurs ont construit la ville, et pas forcément des fois de manière très compétente, dans certaines infrastructures, du coup, qui avaient forcément des limites, qui n'étaient pas forcément, qui étaient peut-être énergivores aussi au niveau des ressources naturelles. Est-ce qu'on peut améliorer les infrastructures déjà existantes pour réduire la note énergétique, ou est-ce qu'il faut tout reconstruire? Vous pensez que on peut déjà s'appuyer sur les fondations qui existent déjà?
Ah non, mais il faut surtout pas déconstruire, parce qu'en fait, en termes d'impact, c'est pas bien. Ce qu'il faut, en fait, c'est effectivement faire des plans de rénovation, en fait, thermique, pour que... Alors, notamment, en fait, pour améliorer le pouvoir d'achat des plus pauvres qui souvent vivent dans des passoires thermiques. Et donc, il faut travailler sur les bailleurs sociaux, par exemple, sur les grandes copropriétés, où on a des grille-pains pour se chauffer l'hiver. Et en fait, on consomme énormément d'énergie. On a des factures de charges qui sont colossales. Et donc, il faut réduire ce prix des charges pour les locataires, par exemple, en isolant mieux. Et en fait, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien pour la collectivité, rien pour les bailleurs. Il faut juste... monter le programme, et on peut, par les aides qu'il y a au niveau européen, bien sûr il y a des fonds européens, il y a énormément d'aides qui sont possibles, et donc on peut monter des programmes d'efficacité énergétique qui soient neutres en termes d'investissement pour la collectivité, mais très positifs pour les locataires, pour les propriétaires, en termes de bénéfices, et pour le climat encore plus.
D'autant plus qu'il y a de plus en plus d'aides d'État, je crois, dans ce domaine.
Tout à fait, il y a des aides d'État et puis il y a des dispositifs qui existent, qui sont liés en fait au permis à polluer, vous savez, donc où en fait l'entreprise prend à sa charge l'investissement, c'est 0 euro pour la collectivité ou pour le bailleur social, et lui se paye en fait sur le principe pollueur-payeur en fait. Donc le fait que les gains en énergétique qu'il fait, paye ses investissements en travaux. Mais il y a un vrai gain pour la collectivité, il y a un vrai gain pour la planète et il y a un vrai gain pour les habitants. Donc en fait, c'est tout du gagnant, tout ça. C'est un vrai... nous, il faut vraiment qu'on aille dans ce domaine-là. L'efficacité énergétique. Bien sûr, il faut développer les énergies renouvelables, le photovoltaïque notamment, parce qu'on a des gisements solaires. En fait, Marseille, on est une ville qui est extrêmement en retard au niveau de la pollution et au niveau de l'écologie, de l'environnement. Mais en fait, on a des atouts qui sont colossaux. On a des gisements solaires, éoliens, on a cette mer, on a une situation géographique qui est exceptionnelle. Et donc, en fait, on a énormément d'atouts en fait, pour devenir effectivement un phare de la transition écologique au niveau méditerranéen.
Très bien. Bah, écoutez, on va faire une petite pause et on va passer une musique du coup, que vous avez choisie ce soir. L'homme à tête de chou de Gainsbourg. Pourquoi cette chanson ?
Parce que j'adore Serge Gainsbourg. Je l'adore depuis que je suis très jeune. Et puis, c'est mon album préféré de Gainsbourg. Et puis, l'homme à la tête de chou, c'est le rapport, c'est le lien homme-nature. C'est cette nouvelle relation à tisser avec le vivant, avec l'ensemble du vivant. Et voilà.
Merci, bonne écoute.
Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Comme ça, aussi sec. Quoi, moi, demeure encore des clous. Qui et où suis-je? Chou ici ou dans la blanche écume varec sur la plage?
Rebonsoir sur Radio Galère. Vous êtes toujours en compagnie de Monsieur Barle, adjoint à la transition énergétique à Marseille. Monsieur Barle, vous m'avez parlé de la cité de la transition. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit ?
Oui, ben c'est l'un de nos projets les plus importants. Je pense que on parlait du retard que l'on a, mais à Marseille également, on a un vrai souci en fait avec une jeunesse qui sort souvent de, enfin, avec des ce qu'on appelle les décrocheurs, des gens qui sortent sans qualification. Il y a beaucoup de personnes, et en même temps, on sait qu'il manque 40 000 emplois en fait à Marseille. Donc, ben, en fait, c'est cette dichotomie qui nous paraît être aberrante, et on pense que l'écologie en fait peut être ce fil qui nous permettent aussi de ramener cette jeunesse, de ramener des jeunes en fait vers des métiers d'avenir, des métiers non délocalisables. Parce que l'écologie, c'est ça, les filières écologistes. Ce qui est important, c'est que c'est pas comme les filières industrielles où on peut délocaliser avec de la main d'œuvre moins chère. Les besoins, ils sont locaux. Les installations de panneaux photovoltaïques, c'est localement qu'il faut les poser. Et donc, il faut des gens qui soient des couvreurs, des électriciens. Il faut des gens formés en fait à des métiers d'avenir sur les filières énergie renouvelable, efficacité énergétique, économie circulaire, économie de la mer. On peut valoriser, on peut créer des activités vertes en mer également. Donc ça, pour nous, c'est essentiel en fait de développer cette formation. Et c'est une des fonctions de cette Cité de la Transition. Mais on veut aussi que ce lieu totémique, en fait, cette Cité de la Transition, qui pourrait être située entre le 15e, le 3e, dans des endroits justement où des zones de fracture, eh bien en fait... on aimerait également que ce soit un espace où des chercheurs viennent et puissent en fait développer leur projet de recherche. Ils ont un brevet, ils ont développé un projet complètement innovant. Donc c'est ainsi, il y aura une fonction d'innovation et de recherche-développement. Ça nous paraît essentiel avec des startups qui pourront développer des projets très écologistes qu'on pourra ensuite industrialiser à Marseille aussi. Donc ça, ce sera l'étape intermédiaire. Et puis, il faut que ce soit un lieu vitrine, un lieu ouvert au public où... on puisse débattre autour des grandes questions de la transition écologique, on puisse former l'ensemble des citoyens à ces enjeux, on puisse échanger entre acteurs de la transition, il peut y avoir des démonstrations de projets, des maquettes de projets avec des urbanistes, des gens qui travaillent sur la ville de demain. Voilà, c'est un peu une espèce de centre de ressources de cette ville en mouvement, de cette ville en transition.
En tout cas, ça a l'air d'être un beau projet. Où est-ce que vous comptez installer cette cité de la transition à Marseille ?
Il y a des grands espaces qui existent encore. Là, il y a dans le 3e arrondissement des casernes, des projets qui existent, des zones en friche. Donc il y a tout un territoire en friche. Ce qui est intéressant, c'est que il faut que ce soit situé là, en fait, dans cette zone de l'arrière-port, entre les quartiers populaires et le cœur de ville, cette zone de fracture, en fait. Et c'est cette cité qui pourrait réparer en partie, hein, je ne dis pas que c'est la panacée absolue, mais qui pourrait être un des leviers de réparation de notre ville.
Ça paraît être effectivement une bonne localisation. Nous avons une question d'un auditeur, Monsieur Espinoza, qui voudrait vous interroger ce soir. Bonsoir, Monsieur Espinoza.
Oui, bonsoir. Voilà. Avant tout, je voulais, première chose, dire bonjour à Sébastien.
Bonjour, Victor.
Son poste. Et je voulais aussi dire merci à Dorian et à toutes les nouvelles équipes de Radio Galère, de l'émission Écoforum. Ça fait déjà plus de 2000 émissions de radio. Vous voyez, là, c'est une émission. Pour tenir 2000, ça fait beaucoup, beaucoup. Et on a une nouvelle équipe super. Mais je voulais juste peut-être aller dans le sens qu'a dit Sébastien. Mettre cinq thèmes rapides. La première, c'est quand tu parlais de transition écologique. C'est vrai que si on l'applique bien, on peut avoir beaucoup d'emplois. J'aimerais que tu expliques quel est le lien, parce que c'est vrai que si on l'applique via la transition écologique, soit par l'isolation thermique, soit par la sobriété, soit par l'éducation, on a une partie d'emploi important. Donc si tu pourrais le développer, pas tout de suite, je vais te poser les cinq questions et après je vais arrêter mon téléphone. La deuxième, c'était les déchets. On s'est battu beaucoup ensemble contre l'incinérateur de Marseille. Et l'incinérateur Carrefour, qui était assez injuste, est-ce qu'il va y avoir des changements? Je ne pense pas qu'on pourra arrêter la délégation de services publics, mais on peut envisager déjà de faire des changements assez profonds sur ça. La troisième, c'était sur l'éducation. Bien souvent, des fois, les cellules vertes oublient ce côté-là, qui est le côté le plus important. J'ai fait mon test, j'ai été laissé à la région. J'avais demandé à l'époque, j'ai pas eu vraiment de soutien pour faire des choses liées à l'éducation. Et je pense que s'il y a quelque chose à faire d'important sur Marseille, parce que nous, on l'a fait sur l'air, hein, on a fait déjà depuis 10 ans de la sensibilisation qu'aujourd'hui marche, et même il y a des gens qui votent pour cette sensibilisation, donc l'éducation. Et il faut, on a 1 milliard d'euros pour l'école, je pense qu'un petit million pourrait être utile pour pouvoir développer le grand bloc, l'éducation. Et pour finir, je dirais juste la partie qui pour moi c'est très important, parce que toi tu as parlé beaucoup de ces lobbies et tout ça. Je suis pour la transparence et pour que les élus, les nouveaux élus que nous sommes, tout le monde soit très transparent pour rapport à ce qu'il est, ce qu'il fait, c'est combien il gagne, tout ça. Et même je suis pour, si tu veux, que les élus qui s'engagent à quelque chose soient totalement coupés de tout type d'intérêt. Et ça, tu l'as dit, je trouve que ça, c'est très important. Donc, je suis pour une transparence totale, liée peut-être, pourquoi pas, avec l'association Anticorps, faire quelque chose qui permet d'être exemplaire. Voilà un peu mes remarques. Je te donne, je te souhaite le maximum. Je serai là aussi pour aider, parce que critiquer, c'est aider, mais aussi, des fois, il ne faut pas critiquer, il faut faire, parce que là, on n'a pas le droit à une deuxième chance. Les élus écologistes, ils sont arrivés en tête. D'une façon ou d'une autre, on n'aura pas une deuxième chance. Les gens attendent justement de nos promesses et de tout ce qu'on a dit. Et là, il faut faire et je sais que ça ne va pas être facile. Voilà. Bonne chance, Sébastien. Et je vais continuer à t'écouter de mon iPhone. À bientôt.
Merci beaucoup, Victor. C'est vrai que tu fais partie également, tu es élu, toi, sur le 15-16. Donc on va travailler ensemble dans le domaine de la transition. Je pense qu'on a plein de projets à défendre ensemble. Sur la question de l'emploi, il y a des gisements en fait, d'emploi autour de l'écologie. C'est vrai que c'est essentiel en fait, ce que l'on peut créer comme emploi et des emplois qui resteront locaux sur les énergies renouvelables, la maîtrise, l'efficacité énergétique et des emplois très divers en fait, avec possibilité pour des jeunes d'évoluer en plus. Ce qui est intéressant, c'est ça, en fait. C'est quand on est dans les alternatives énergétiques, c'est que, en fait, on peut commencer par poser des panneaux photovoltaïques sur les toits et puis ensuite de devenir presque ingénieur. Parce que, en fait, on apprend au fil de l'eau, ce sont des petites structures, donc on peut monter très vite, on peut monter en compétences, en tout cas très rapidement. Voilà, c'est un gisement essentiel. On peut créer de l'emploi dans une ville qui est vraiment en perte, au fait qu'il y a un taux de chômage qui est important. Donc on peut générer de l'emploi sur l'économie circulaire. Tu parlais des déchets. Sur les déchets, on voit que c'est un gisement d'emploi également colossal. Et puis il faut réduire. Tu parlais effectivement de l'incinérateur, qui est en fait un monstre qu'il faut nourrir quotidiennement. Mais on a des décharges qui ferment. Et donc il faut que nous, on réduise nos déchets à la source. Et il faut qu'on réduise aussi les déchets organiques, par exemple. Les déchets organiques, c'est-à-dire on jette les épluchures de pommes de terre, de carottes, alors qu'on pourrait valoriser ça. Et par exemple, équiper nos bus ou nos bennes à ordures ou la flotte de véhicules de la ville. Par exemple, les moves, le service pour... alors là, c'est plutôt le département, d'ailleurs. Mais on pourrait équiper toutes les flottes, en fait, publiques, on va dire, de véhicules, avec du bio-GNV, du biogaz en fait produit par nos déchets, avec des petites unités de méthanisation. Par exemple, on a une grande cuisine centrale. Quand la DSP, rêvons un peu, hein, quand la DSP sera terminée avec la Sodexo et qu'on aura développé des circuits courts en fait alimentaires, on aura des cuisines donc peut-être dans chaque arrondissement pour les écoles. Et donc, on n'aura plus besoin de cette grande cuisine centrale avec Sodexo qui exploitait et qui faisait 52 000 emplois industriels, 52 000 repas industriels. On pourra peut-être faire des unités de méthanisation et valoriser sur ce site, en fait, tous nos déchets, ensuite rejeter au réseau et équiper nos véhicules. Ça, c'est un des points. Tu parlais de l'éducation à l'environnement. C'est vrai que c'est essentiel. Et on voit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, depuis 2 mois, on reçoit énormément de porteurs de projets et on voit qu'il y a que cette question-là, elle est essentielle. Travailler sur l'école, par exemple, il y a des gens, des collectifs citoyens, des parents d'élèves, des enseignants, qui veulent ouvrir à Longchamp un jardin-école. C'est un très beau projet, en fait. C'est génial, parce que nous, il nous est livré, c'est sur un délaissé municipal, ça appartient. Nous, on a juste à donner les clés, en fait, de cet espace qui n'est pas valorisé. Mmh. Et en fait, qu'un espace vert, et ça permet à 8 écoles, donc des dizaines de classes, de venir une demi-journée par semaine sur ce site et d'avoir un rapport en fait au vivant, à la nature, qui est quand même essentiel, surtout qu'il y a le muséum d'histoire naturelle à côté. Donc voilà, c'est des choses toutes simples qu'on peut développer très très vite en matière de retour, d'éducation à l'environnement, Il y a des associations qui sont compétentes. Il faut qu'on arrive à développer cela. On a aussi aujourd'hui une délégation à l'éducation populaire, mais l'éducation populaire, c'est aussi l'éducation au vivant. Donc on souhaiterait dans les... pas forcément dans des lieux clos, pas forcément dans les écoles, mais par exemple les après-midi, dans les parcs, dans les petits squares, faire des animations autour de l'éducation à l'environnement, autour du rapport à la nature et du rapport au vivant. Ça nous paraît essentiel et aujourd'hui il y a des porteurs de projets qu'on va soutenir dans les différents secteurs pour développer ce type de projet. Tu évoquais également, Victor, la transparence. Je crois qu'effectivement c'est essentiel parce qu'on a une équipe sortante qui était... qu'on a beaucoup critiqué, et donc nous, on se doit d'être exemplaire. On se doit d'être exemplaire, de donner l'exemple, de ne pas avoir un chauffeur pour venir être interviewé à la friche en mobilisant donc des moyens de la collectivité et en polluant un peu plus cette ville qui est déjà surpolluée. On doit être exemplaire et transparent sur les conflits d'intérêts. Par exemple, ça c'est essentiel, on va mettre en place en fait un comité d'éthique au niveau de la municipalité pour veiller à ce que les élus, notamment les élus en poste exécutif, n'aient pas de lien d'intérêt avec telle ou telle partie, telle ou telle entreprise pour lesquelles on délivre des permis de construire, effectivement, ou des marchés publics. L'exemplarité, c'est aussi la commande publique. En fait, c'est sympa de dire « ayez un comportement plus vertueux aux citoyens », mais il faut que nous aussi, en tant que collectivité, on soit exemplaire. Et donc, il faut qu'au niveau de tous nos achats, eh bien, en fait, on soit exemplaire, qu'il n'y ait plus les bouteilles d'eau pour les réunions, qu'on ait des fontaines à eau, qu'on ait des achats. Par exemple, quand on rénove nos écoles, eh bien, en fait, qu'on achète des matériaux qui soient des matériaux locaux, qui soient biosourcés. Ça, c'est essentiel, en fait, de donner cet exemple-là et de décarboner, y compris la commande publique de la collectivité, de la ville de Marseille. Voilà, donc il y a tout un chantier qui est lancé. Ça prend un peu de temps parce que on part de zéro, comme je disais, mais ce chantier de l'exemplarité, en fait, très vite, je pense qu'en novembre, on va pouvoir le présenter et déjà avoir des mesures très parlantes pour l'ensemble des Marseillais. On a déjà réduit le parc automobile, bien évidemment. On a réduit les chauffeurs et redéployé ce personnel vers plutôt du lien social. Voilà, on met en place toutes ces politiques. Je vous assure que tous les adjoints et adjointes travaillent d'arrache-pied. On voit qu'il y a des attentes et c'est tant mieux qu'il y ait des fortes attentes de la part des citoyens. Et parce qu'il faut qu'on soit poussé, en fait. Voilà, il y a des vraies urgences à Marseille. Il y a l'urgence écologique qui est vraiment prégnante. Donc il faut continuer. On crée des espaces. D'ailleurs, démocratie continue. On veut co-élaborer les politiques publiques avec l'ensemble des associations, des citoyens. Mais voilà, la question du temps, elle est aussi importante, cette pédagogie du temps. C'est-à-dire, on peut répondre aux urgences. Il y a plein de choses à soutenir. Il y a plein de projets émergents à soutenir. Mais par exemple, sur la rénovation des écoles ou des logements, ça mettra du temps. On va aller d'abord vers... Et donc après, c'est qu'est-ce qu'on priorise ? On va prioriser les sites les plus énergivores. Et puis ensuite, on va aller sur l'ensemble des sites, mais dans un deuxième temps.
Très bien. Et on n'a pas vraiment parlé du Covid ce soir. Donc je voulais vous poser une petite question en rapport avec cette maladie. Donc notamment le constat de France Nature Environnement qui a été fait et qui déplore 2500 décès par an prématurés à Marseille dus à la pollution des particules fines. Elle compte également, donc c'est les chiffres de France Nature Environnement, près de 48 000 décès par an en France pour cette cause. En parallèle, le Covid a tué malheureusement en France près de 30 000 personnes pour au ratio 612 morts en PACA. Pourquoi plus de protection contre le Covid qui tue moins que la pollution de l'air ? Est-ce que vous pensez que les mesures de port de masque sont proportionnées ? Est-ce qu'on ne devrait pas tous porter finalement des masques à particules fines pour se débarrasser de ces deux dangers, de ces deux menaces ?
Je crois que ce qui est... je ne sais pas si on peut comparer... C'est vrai que la question de la prise en compte par les pouvoirs publics de cette menace épidémique par rapport à ce que l'on sait depuis des années, parce qu'en fait, ce rapport dont vous avez parlé, les 48 000 morts, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu plus. C'est pas nouveau, en fait. Chaque année, on a des chiffres. On sait que on a des alertes de médecins qui disent les ravages en matière de santé publique liés à la pollution de l'air notamment, mais pas seulement d'ailleurs. À Marseille, malheureusement, on a aussi la pollution des sols avec l'école Oasis et de l'eau aussi. Donc, il y a peut-être on n'est pas assez vigilant. Peut-être qu'il faudrait mettre la même ardeur et la même vigilance et la même précaution sur ces questions de pollution et de dégâts sanitaires qu'ils génèrent. La pollution industrielle, elle est aussi phénoménale. Quand on parlait tout à l'heure de l'incinérateur de Fos, les personnes de Fos sont déjà sur un territoire sursaturé au niveau de la pollution industrielle. Et en fait, on sait très bien, il y a eu des études épidémiologiques. Il faut que les citoyens fassent des études épidémiologiques. C'est eux qui sont, alors qu'ils demandaient depuis des années des registres de cancer, des études comparatives par rapport à leur lieu. On sait aujourd'hui qu'on a 4 fois plus de chances d'avoir un cancer en habitant à Fos qu'en habitant sur un autre territoire moins impacté par l'industrie. Et donc, ça, c'est pas tolérable, en fait. C'est un crime industriel qui tue, en plus, c'est une mort. En fait, c'est un crime parfait, parce qu'en fait, c'est des crimes qui se produisent 30 ans après l'exposition, en fait. C'est ça qui est terrible. Le Covid, les gens ont l'impression ils ont une comorbidité qui peut être liée, d'ailleurs, à des facteurs environnementaux, ceux qui meurent du Covid. Leur mort est assez brutale et donc ça impacte beaucoup plus sur la population. Mais c'est vrai que les morts prématurées liées à la pollution, c'est peut-être les émissions, elles sont captées pendant plusieurs années, plusieurs décennies, mais les ravages sont plus considérables encore, effectivement. Donc il faut qu'on empêche, on sait aujourd'hui comment lutter contre ces sources de pollution. Et donc il faut absolument qu'on prenne les mesures pour faire face à cette pollution. Parce qu'elle impacte aussi nos enfants, d'abord nos enfants, d'ailleurs, la pollution de l'air.
Mmh. Et du coup, quelles sont les mesures à prendre ?
Les mesures, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, réduire la place de la voiture, empêcher la pollution au fioul lourd, enfin l'émission au carburant, enfin le fait que les navires puissent circuler avec du fioul lourd en mer Méditerranée. Donc c'est aussi faire en sorte que les industriels soient beaucoup plus contrôlés et qu'on arrête la pollution de ces sites industriels quand ils sont trop polluants. Ça, c'est évident. Donc, on a ces 3 sources qui sont à limiter énormément, et donc développer les mobilités douces, développer, circuler en vélo, considérer que ne pas faire culpabiliser les habitants, parce qu'en fait, parfois, malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors nous, par exemple, on essaye de réfléchir, parce qu'on sait que ça va mettre du temps aussi de développer des transports collectifs dans l'ensemble des quartiers de la ville. C'est un souhait que l'on a, ça va mettre encore une fois une décennie. Mais par contre, il faut des moyens transitoires, d'autopartage, de transports collectifs alternatifs, des petites navettes par exemple qui complètent justement les tramways ou le métro pour desservir des quartiers qui sont aujourd'hui très mal desservis. Il faut imaginer des solutions en fait transitoires, c'est ça la transition aussi. C'est imaginer des solutions de véhicules propres qui pourraient compléter l'offre de services en matière de transport collectif quand elles manquent.
Effectivement, et malheureusement, vous n'avez pas non plus toutes les clés en main. Votre pouvoir d'action est aussi limité par le rôle de la métropole. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents imbrications, du coup, parce que la métropole a plutôt une compétence justement sur la gestion des déchets et l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il vous reste tout de même un pouvoir d'action ?
Mais il reste toujours un pouvoir d'action. Et puis en fait, faut jamais la politique, c'est c'est un combat qui est. Il faut le mener, il faut peser, il faut convaincre, en fait. C'est ça aussi la politique. Donc, pour moi, la métropole, c'est un territoire qui est un établissement public. On a délégué des compétences à un grand établissement public pour planifier, justement, des mesures sur le climat. Le plan climat, on l'a délégué à la métropole. Aujourd'hui, il n'existe pas, le plan climat, il n'a pas été voté. Donc, il faut qu'on pousse en tant que membre de cet établissement public pour qu'il soit réalisé. Le plan vélo, il a été élaboré et voté en lien d'ailleurs avec les associations d'usagers du vélo au niveau de la métropole. Il faut l'appliquer, il faut que la métropole donne les moyens pour qu'à Marseille, on déploie ce plan vélo. Donc si vous voulez, il y a des outils qui sont au niveau de la métropole. Il ne faut pas que Marseille soit pénalisée par des enjeux politiciens, en fait. Donc il faut qu'à Marseille, on puisse déployer ceux qui ont voté pour une nouvelle majorité, puissent déployer les projets dont ils souhaitent doter en s'appuyant y compris sur l'outil métropole quand les compétences sont transférées. Mais je pense que sur les questions de propreté, par exemple, il faut qu'on soit suivi quand on demande des moyens supplémentaires. Il faut qu'on soit suivi sur les transports collectifs quand on dit quelles sont les priorités pour nous en matière de transport, ou quand on veut arrêter un projet, par exemple, comme le boulevard urbain sud, qui est une autoroute urbaine, et qu'on veut redéployer les crédits sur le transport collectif, il faut qu'on soit écouté. Et on commence à l'être, en fait, sur... Parce qu'en fait, il y a une pression aussi des citoyens. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de hold-up démocratique. Mais donc, l'idée, c'est de nouer les alliances autour de projets, en fait, au niveau de la métropole. Il faut que les projets transcendent les conflits politiciens. Et c'est pareil avec la région. D'ailleurs, avec la région, il faut que ça se passe bien. Parce qu'en fait, notre territoire, il doit être aidé, comme les autres, sur les questions de transition écologique, sur les questions de formation des jeunes, sur les questions de culturel, d'accès à la culture, ça paraît être essentiel, en fait, qu'on tisse des liens entre la ville et les autres collectivités, le département, la région et la métropole.
Très bien. Et du coup, si vous aviez la possibilité d'obtenir la lampe du génie de l'écologie et que vous aviez 3 vœux à faire, quels seraient ces 3 vœux?
Je pense que le premier vœu, ce serait d'arrêter tous les projets, en fait, routiers, tous les projets aéroportuaires, donc tous les projets de déplacement qui sont extrêmement polluants. On voit aujourd'hui qu'il y a des projets d'extension de l'aéroport de Marignane. Ça paraît aberrant à l'heure où on nous parle d'urgence climatique, de se dire qu'on va développer un peu plus, on va anticiper le développement du flux aérien. Je pense qu'il faut arrêter, en fait, ce type d'infrastructure. Il faut développer les alternatives auto-voitures et donc le transport du quotidien, en fait. Les transports du quotidien. Il faut repenser le tourisme, parce que les aéroports, aujourd'hui, en fait, pour le boulot, on se déplace, on peut faire de la visioconférence, on peut se déplacer en train, en fait. Les réseaux ferrés entre les grandes villes sont bien desservis, mais il faut aussi développer le fret ferroviaire. Il faut développer tous ces projets-là. Donc ça, c'est un des axes qui est essentiel. C'est le premier vœu. Ensuite, il y a, je pense, un vœu autour de tout ce qui est... C'est Victor tout à l'heure qui parlait de l'éducation. Effectivement, c'est essentiel. Décoloniser notre imaginaire. Il faut travailler, en fait, sur l'imaginaire écolo. Et donc, ça, c'est essentiel, en fait, de se le représenter, en fait. Qu'on ne soit pas toujours dans le punitif. Quand, par exemple, le maire de Bordeaux dit « L'arbre mort, je ne veux plus voir cet arbre mort », pour Noël, mais il ne dit pas qu'il ne veut plus célébrer la fête de Noël. Au contraire, l'écologie, c'est le vivre ensemble, c'est le partage, c'est l'harmonie entre l'homme et la nature, et entre les hommes. Mais ce n'est pas une écologie punitive. Il explique juste qu'en fait, on ne peut pas massacrer la forêt, enfin le massif du Morvan, en plantant des arbres, effectivement, qui vont être arrosés aux pesticides qu'on va retrouver dans l'eau, et avec le transport aussi de ces arbres. On peut changer nos habitudes, mais pour ça, il faut s'adapter au changement. Et donc, ça passe par l'éducation, ça passe par décoloniser nos imaginaires, par le fait que les artistes puissent travailler avec nous sur quelle est la société dont on rêve et qui serait une société résiliente, écologique, solidaire, fraternelle. Donc ça, c'est essentiel, c'est le deuxième vœu. Et le troisième vœu, je pense, c'est revoir tout ce qui est activité, en fait, arrêter, en fait... avec relocaliser complètement les activités de production et de consommation. Donc développer les circuits courts et faire en sorte qu'on taxe tellement, en fait, le carbone qu'en fait on soit obligé de relocaliser complètement qu'on crée des écosystèmes ultra autosuffisants, si vous voulez, locaux. Donc voilà, ça c'est un enjeu essentiel. Ça mettra un peu de temps, encore une fois, mais il faut tendre vers ce type de modèle de développement.
Merci Monsieur Barle d'avoir été avec nous ce
merci
soir.
Merci à vous, merci beaucoup.
et bon courage du coup pour toutes les tâches qui vous attendent. On espère vous revoir très vite sur Radio Galère pour nous en parler.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée à tous, au revoir.